Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta Meton. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journaux, suivi la revue de presse. Aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point, et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, vous écoutez La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a inauguré l'Institut indonésien d'éducation et de recherche médicale. L'Indonésie, Bosnie-Herzégovine sont d'accord pour augmenter la valeur commerciale. Le vice-président américain Mike Pence se rendra en Indonésie. L'Indonésie a gagné 4 médailles de l'Olympiade et de l'environnement au Kenya. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a inauguré l'Institut indonésien d'éducation et de recherche médicale à la faculté de médecine de l'Université d'Indonésie, Jakarta, récemment. L'Institut indonésien d'éducation et de recherche médicale est une grappe de recherche et d'éducation créée pour répondre aux divers défis dans le domaine de la santé et la médecine dans le futur. Dans son discours d'inauguration, le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que l'Indonésie était une grande nation, avec une population plus de 250 millions de personnes. Ce pays aura besoin de médecins plus excellents. Cela nécessite des changements par l'éducation et la recherche. Ainsi, l'Indonésie apprécie grandement la création de l'Institut indonésien d'éducation et de recherche médicale financé par la Banque islamique de développement. C'est pourquoi le gouvernement a développé l'Institut indonésien d'éducation et de recherche médicale pour être un endroit où les experts indonésiens développent leurs connaissances pour le public. Et bien sûr, c'est aussi parce que la recherche est notre besoin. Il faut absolument beaucoup de coopération entre les institutions de recherche dans le monde, parce qu'elles veulent aussi coopérer avec nous pour traiter les maladies dans ce pays. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que l'IMERI devrait coordonner avec d'autres industries. Il estime que l'industrie doit respecter, accommoder et diffuser le résultat de la recherche au public. L'Institut indonésien d'éducation et de recherche médicale est équipé de la technologie sophistiquée dans la recherche génétique et la biomolécule qui est très bénéfique pour l'éducation et le service communautaire. Au cours des 10 prochaines années, IMERI devrait être le centre de recherche et d'innovation de la santé et du médecine en Indonésie. L'Indonésie et la Bosnie-Herzégovine sont d'accord pour augmenter la valeur commerciale en encourageant le contact entre les hommes d'affaires, notamment après la signature du protocole d'accord en 2004. L'Indonésie invite les entreprises de Bosnie-Herzégovine à assister à l'exposition commerciale Indonésia 2017. Il a été déclaré par le directeur général des États-Unis et à l'Europe du ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Ansor, dans le premier forum consultation bilatérale entre le ministre des Affaires étrangères avec le ministère des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine au ministère des Affaires étrangères à Jakarta jeudi. Selon Mohamed Ansor, le forum de consultation bilatérale est organisé pour la première fois dans la coopération bilatérale qui a été signée à Jakarta le 15 décembre 2004. Par conséquent, ce forum est utilisé pour changer des points de vue sur le développement national, la coopération dans la politique, l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation et sociale, la culture, la question régionale et internationale. Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, fera une visite d'État en Indonésie du 19 au 20 avril 2017. L'ambassadeur des États-Unis à Jakarta, Joseph R. Donovan, a déclaré qu'il n'y avait pas de raison particulière pour le vice-président. Mike Pence a visité plusieurs pays d'Asie et de l'Australie, y compris l'Indonésie. En marge d'une rencontre avec le ministre du Tourisme Arif Yahya, Joseph Donovan a déclaré récemment que la visite est considérée comme une visite d'État faite par un chef d'État, tandis que pour les États-Unis, cette visite en Indonésie est comme notre engagement à maintenir le partenariat stratégique, parce que selon les États-Unis, l'Indonésie est un partenaire stratégique qui continuera à être renforcé en partenariat. L'Indonésie a remporté des médailles lors de l'Olympique de l'environnement avec le thème Olympiade du projet environnemental international du climat d'or 2017 au Kenya. L'équipe indonésienne remporte une médaille d'or, deux médailles d'argent et une médaille de bronze aux Jeux olympiques environnementaux au Kenya. La compétition internationale pour les étudiants a lieu à l'École internationale de Nairobi au Kenya du 1er au 10 avril 2017. Une équipe indonésienne de l'école secondaire Al-Azhar a remporté des médailles d'or dans la catégorie junior pour la feuille de contreplaqué en bagage. Cependant, l'équipe du lycée de Kesatuan Bangsa a remporté une médaille d'argent pour la découverte antibactérienne de la tique d'un arbre de la banane pour les toilettes. Une autre équipe de l'école secondaire de Kesatuan Bangsa a gagné également une médaille d'argent dans la catégorie de conception environnementale pour un masque protecteur pour fumeurs passifs sous la forme de tissu contenant le charbon de noix de coco. Cependant, la médaille de bronze a été gagnée pour la catégorie débris en déchets de styromousse et de charbon de bois. Les équipes indonésiennes ont réussi à battre 180 projets lors de la compétition qui ont participé à 350 participants de 22 pays. C'est la deuxième fois que les Indonésiens participent aux Jeux olympiques de l'environnement. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Voici la revue de presse. Nous commençons la revue de presse avec le journal Business Indonesia dans son éditorial mardi 11 avril 2017. Il a écrit le renforcement des industries de main d'œuvre. L'un des plus grands défis du gouvernement dans les problèmes pendant les années prochaines est de réduire le taux de chômage en 2016 à Athènes d'environ 7,02 millions de personnes. L'un des efforts pour réduire le taux de chômage est d'augmenter le nombre d'emplois dans le secteur formel. Si le secteur formel devient la solution, le gouvernement doit développer sérieusement l'industrie manufacturière nationale, parce que le secteur formel peut réduire le nombre de chômages massifs. L'absorption de la main-d'œuvre en masse par l'industrie manufacturière est la meilleure solution, parce que l'Indonésie est en train de développer l'industrialisation comme le principal pilier de l'économie nationale. À cette fin, le gouvernement doit créer le climat confortable pour l'investissement, notamment les industries de main-d'œuvre, à savoir les secteurs qui sont soutenus par les travailleurs dans le processus de production. Selon le journal Business Indonesia, il y a des secteurs de main-d'œuvre qui existent depuis longtemps en Indonésie et deviennent un pilier de l'absorption de main-d'œuvre, entre autres les textiles et produits textiles, les meubles, les chaussures et l'électronique. Le journal Média Indonesia, dans son éditorial le mercredi 2 avril, a écrit « N'ayez pas peur de lutter contre les corrupteurs ». La violence de l'enquêteur de la Commission pour l'éradication de la corruption au KPK, M. Novel Baswedan, est le problème sérieux. Très probablement, la terreur est liée à la position comme l'enquêteur de divers cas de corruption. M. Novel Baswedan a été attaqué par deux hommes inconnus après la prière du matin dans une mosquée près de sa maison à Kelapa Gading, Jakarta du Nord, mardi. Son visage a été arrosé avec l'eau calcaire. Attaquer Novel Baswedan parce qu'il a lutté contre la corruption est la même chose d'attaquer KPK et l'État. Selon Média Indonesia, l'État doit vraiment protéger les enquêteurs. Arrêter et juger ceux qui ont attaqué Novel est l'une des formes de protection. L'Indonésie n'a jamais peur de lutter contre les corrupteurs. Chers amis, c'était la revue de presse de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonesia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, la Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 15 avril 1912, le Titanic a coulé. Le RMS, ou paquebot Courrier Royal, est le chef d'œuvre de la technologie du début du XXe siècle et l'orgueil de l'Angleterre. RMS Titanic, un navire à passagers de la Grande-Bretagne qui a coulé dans l'océan Atlantique Nord après avoir heurté un iceberg lors de son voyage inaugural à Southampton, en Angleterre, à New York. Titanic a coulé le cinquième jour de voyage qui a commencé le 10 avril 1912 et a fait 1514 morts, et ce navire a été fabriqué de 1909 jusqu'en 1911 par le chantier naval à Belfast et capable de transporter 2224 passagers. Les passagers se composaient d'un certain nombre de personnes les plus riches dans le monde et plus de 1000 émigrants de la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Scandinavie et d'autres pays qui cherchent une nouvelle vie en Amérique du Nord. Le 15 avril 1989, tragédie de Île-Bourouge. La tragédie est celle de la mort de l'audience de football en raison de l'effondrement de tribunes de stade qui ne peut plus accueillir la capacité des audiences. Plus tard, sur la base des résultats de l'enquête qui ont été révélés par le Premier ministre britannique David Cameron, la police de Yorkshire Sud s'est avérée à falsifier le rapport de cette tragédie qui a blâmé les fans de Liverpool en disant que les fans de Liverpool, ivres, ont fait irruption dans le stade. Enfin, toutes les parties formellement excusées, y compris le Premier ministre britannique, représentant du gouvernement britannique, ont reconnu que les victimes sont traitées injustement. Le 15 avril 2002, avion Air China, le Boeing 767-200, numéro de vol CA-129, est tombé à Busan, Corée du Sud. Il est tombé dans la région montagneuse près de Busan, la deuxième plus grande ville de la Corée du Sud, par très mauvais temps. Dans le cas, 115 personnes ont été tuées, 39 survivants et 13 disparus. Boeing transportant 167 passagers et l'équipage s'est écrasé l'épingle du mont Sineo après avoir tourné sur 180 degrés, va atterrir à l'aéroport international Gimhae, Busan. Le mont Sineo, situé face à l'aéroport international Gimhae, c'était le premier accident de la compagnie aérienne de la Chine qui a 69 avions et 114 destinations. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et un petit titre. L'Arabie Saoudite veut investir dans l'éducation à Malang. Le Royaume d'Arabie Saoudite a le plan d'investir à la ville Malang, Java Est, pour développer des besoins sociaux et éducatifs au niveau international. Le maire de Malang, Muhammad Anton, mardi a dit à l'agence de presse Antara, la municipalité locale est prête à recevoir les investissements des autres hommes d'affaires saoudiennes dans tous les domaines. De plus, Malang construira le centre islamique comme centre d'activité et les études des musulmans. Anton a ajouté, comme ville d'éducation, Malang est prête d'établir une coopération avec tous, y compris l'Arabie Saoudite. La condition de la ville Malang est entourée par les collèges et les écoles coraniques qui sont très appropriées pour les investisseurs dans l'éducation. Comme affirmé Anton après avoir reçu la visite du recteur de l'Université d'Islam, Imam Mohammed bin Saoud, Imamu, Dr. Sulaiman bin Abdullah Abal Khail, le Conseil supérieur des ulémas du Royaume d'Arabie Saoudite et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à l'Indonésie, Osama Muhammad Al-Shuaibi, à Malang, en province Java Est. Selon Anton, la coopération couvre l'éducation et l'amélioration de la qualité de la communauté. Anton croit sérieux de l'investissement de l'entourage d'Arabie Saoudite peut-être réalisé à Malang. Il a expliqué, Dr. Sulaiman bin Abdullah Abal Hail, avant de venir à Malang à visiter Aceh et Medan. Anton a expliqué, il choisit ensuite une visite à Java Est et Malang, comme il est considéré d'avoir le potentiel assez élevé. Selon Anton, la ville Malang et l'Arabie Saoudite ont le lien historique, prouvé par l'existence de villages d'Arabes dont la majorité des habitants est d'origine d'Arabes. Cependant, Dr. Sulaiman bin Abdullah bin Abdullah Abalhail a dit qu'il avait lu sur beaucoup de choses sur la ville Malang. Il connaît que la ville Malang est une ville qui possède beaucoup d'universités, dont beaucoup visitées par les jeunes pour étudier. Sulaiman a avoué qu'il avait hâte de venir à Malang parce que la ville a un grand potentiel dans l'amélioration de l'éducation et de l'emploi et d'autres fins. Sulaiman bin Abdullah a décrit « La visite du roi Salman a produit une variété de coopérations productives. » Il a ajouté que sa visite à la ville de Malang est un résultat d'actions concrètes de la visite du roi Salman, à savoir le développement de projets de coopération culturelle et éducative. Il a ajouté que les projets de développement de la coopération culturelle et éducative seront réalisés par la direction et l'orientation du roi Salman. La visite du recteur de l'Université islamique, Imam Mohamed bin Saoud, et son entourage, qui comptait 30 personnes, a été accueilli par le maire de Malang, Mohamed Anton, le maire adjoint de Malang, Soutiaji, le secrétaire régional de la ville Malang, Idrus Ahmad, et un certain nombre de chefs d'organisation régionale dans la municipalité locale. Cher ami, c'était la mise au point.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à faire un voyage culinaire à Nusa Tenggara Est. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Alors, est une régence en province Nusa Tenggara Est. Cette régence consiste en 20 îles. L'île Alor est la plus belle. L'île Alor a beaucoup de sites touristiques naturels et culturels exotiques. Les plages sont si belles, superbe vie marine avec de nombreux beaux spots de plongée, donc pas étonnant que la mer Alor soit célèbre dans le monde entier. Même le parc marin Alor est connu le deuxième meilleur dans le monde, après les îles des Caraïbes. Voyager à Alor, plonger devient une activité majeure, mais il n'y a pas de mal à profiter des spécialités culinaires locales. L'un d'entre eux est le maïs titi. Le maïs est l'un des aliments de base de la communauté Alor. Le maïs est également transformé en casse-croûte savoureux appelé le maïs titi. Ce casse-croûte typique d'Alor est similaire avec le popcorn. Son principal ingrédient est le maïs blanc gluant, texturé, collant comme il est un type de variante de maïs local disponible à Nusa Tenggara Est. De l'origine de son nom, à savoir titi, qui signifie être émietté, ou pilonné, le maïs granulé est traité en moyen d'être effilé. Le processus de fabrication semble simple, mais il prend beaucoup de temps. Il y a quatre étapes principales de la fabrication de ce casse-croûte. Au début, le processus de séparation des grains de maïs de l'épi, ou en terme local, du pipil. Après cela, le maïs est rôti à moitié cuit en utilisant un pot spécial ou une poêle à frire en terre. En outre, le processus de pulvérisation. Cette étape détermine le niveau de succès de la fabrication de maïs titi. Par conséquent, il est nécessaire d'expertise dans égrainer le maïs aplati. Pour aplatir le maïs, on utilise deux pierres, une pierre plate qui est utilisée comme base et une pierre plus petite pour livre. Une fois ce processus terminé, le maïs titi devient l'aliment semi-fini. Puis, par la communauté locale, le maïs titi mi-cuit est frit ou cuit au four. Mais avant de les frire ou cuire au four, on barbouille la margarine à l'avance pour être plus bon goût. Lorsqu'ils sont consommés, le goût savoureux de maïs titi est si prononcé. La saveur savoureuse combinée avec une texture croustillante rend le maïs titi devenir le casse-croûte favori à Nusa Tenggara Est, en particulier sur l'île Flores, Solo, Adonara, Alor et Lembata. Le maïs titi est habituellement mangé à l'après-midi avec une tasse de café ou de thé. Il y a aussi ceux qui le mangent avec un plat d'accompagnement de légumes ou même en substitut pour le riz. À Alor, c'est facile de trouver le maïs titi. Le prix est entre 10 000 à 15 000 rupiah par 3 petits bols. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en petit titre, Jakarta Fashion and Food Festival 2017. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, La Voix d'Indonésie. L'agent de la division du développement de marketing touristique du ministère du Tourisme, Esti Reko Astuti, a dit « Le culinaire et le shopping sont deux attractions des destinations touristiques qui sont d'habitude recherchées par tous les voyageurs, les touristes nationaux et touristes étrangers. » Jakarta, le shopping devient le principal attrait et le culinaire le second. Tous les deux sont la force de Jakarta. Les deux attraits, à savoir culinaire et le shopping, par le gouvernement provincial de Jakarta sont mis en place dans un festival intitulé Jakarta Fashion and Food Festival 2017 pour continuer à préserver et développer les valeurs culturelles et la force de l'économie indonésienne, en particulier à travers la mode axée sur la nuski et la culture culinaire. Jakarta Fashion and Food Festival ou JFFF est un événement annuel, une coopération entre Summarecon Agung Tbk Société Anonyme et le gouvernement provincial Jakarta à travers le Bureau du Tourisme et de la Culture de la province Jakarta. Ce festival présente la richesse de la culture indonésienne, en particulier dans le domaine de la mode et culinaire, emballé dans une intéressante série d'événements. Dans la 14e année de sa mise en œuvre, JFFF présente deux événements principaux. Le festival culinaire et celui de la mode à partir de 7 avril jusqu'au 7 mai 2017. JFFF présente la dernière collection de vêtements confectionnés à partir de grands couturiers, couturiers indépendants, ainsi que de jeunes couturiers de diverses écoles de la mode célèbres, à travers le défilé de la mode et Fashion Village au concept de trade show. De plus, il y a une
distribution d'événements de talent et des prix dans le domaine de la mode par Gading, Model Search, TMS, TMS en fan catégorie, Futur Jeune Créateur Promoteur et Fashion Icon Awards. Non seulement la mode, GFFF a également soulevé la charme culinaire de l'archipel au niveau local et mondial. GFFF lance également le programme Eat and Win et Jakarta Wine and Cheese Run. L'appréciation sur la variété culinaire du pays traditionnel sera présentée par Kampung Tempo Dulu, attenant à l'Expo Vin et Fromage, comme moyen d'introduire la culture culinaire du pays à travers des activités d'échange culturel entre les nations. Divers culinaires seront présentés dans GFFF, entre autres, bakwan goreng juara, sukun goreng, tahu kalasan, kwetiau ayam, soto betawi, roksi, mie goreng jawa semar, sate ayam, ayam madura bintang 5, gudeg pejompongan, serabi solo original, et jajanan pasar, soale collation. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidèle attention. À demain. Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Ces auditeurs du monde entier, on vous rencontre avec le programme Le magazine musical de la voix de l'Indonésie à Jakarta. Ce soir, on vous présente un chanteur indonésien, un talent s'appelle Adera. Adera, le nom complet Adera Prabulantip Trangina, ou connu avec le surnom Adera. Il est né à Jakarta le 6 janvier 1948. Il est un enfant d'un chanteur de ballade kuno indonésien, Ebit G.A.D. Chers auditeurs, voici la première chanson d'Adera intitulée Le Petit Cahier.
Bahagialah dengan apa yang kau punya, walau hatimu merasa semua belum sempurna. Sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini, buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup. kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya.
La chanson « Une petite cahier » lancée par Adira à la mi-2016. Cette chanson contient un sens qui est assez profond, qui nous invite à toujours être reconnaissant pour ce qu'il vous a fait. Être heureux avec ce que le Créateur nous a donné rend la vie plus significative. Nous invite à nous plaignons pas facilement en face à la vie avec un sourire. Une chanson est les aimer à des paroles. À la fin de mars 2017, Adira a publié un single Arte Uchapmu. La présence de la chanson Petit Kaya est devenue une merveille surprise pour le public. Ses amis, voici Arte Uchapmu chanté par Adira.
Jangan
chanson Arthur me raconte l'histoire de l'homme en essayant de faire le meilleur pour le bonheur de son amant. Mais malheureusement, il lui quitte. Chers auditeurs, on va écouter deux chansons d'Adirin, de toutes les plus beautés et heureux avec toi, avant de terminer notre programme ce soir. Bonne écoute et au revoir.
Membiarkan hatimu jatuh di pelukanku, memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, ku ingin membawamu lebih jauh. Membiarkan asmara cara sejujurnya, melabuhkan rindu di antara kita.
saja waktu itu tak kutunda untuk ungkapkan isi hati kepadanya. Mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh, tetapi kenyataan tak begitu. Di saat ku mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna, tiba-tiba ada yang lain yang mencuri hatinya. Hilang sudah kesempatanku dengannya. Keraguan dalam hatiku harus ku buang jauh bila ingin mendapatkan yang terbaik. Terlambat sudah semua kali ini, yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok mentari sudah berganti, kesempatan itu terbuka kembali. Akan ku coba lagi. Pengalaman pahit yang ku jadikan pelajaran dalam hidup yang tak akan terlupakan. Oh, jangan menunda sesuatu untuk dikerjakan. Jangan tunda, jangan tunda.
Ketika ku menemukan cinta. cinta saat itu kehadiranmu memberi arti bagi hidupku. Meskipun bila saat ini kita sudah tak bersama lagi, ada satu yang ku rindu, kehangatan cinta dalam pelukanmu. Oh, biarkan aku melukiskan bayangmu, karena semua mungkin akan sirna bagai selalu ada walau tersimpan di relung hati
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15 150, 9525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Kita berdua, hati ini tak ingin dan selalu berdusta. Lupakanmu takkan mudah bagiku. Selalu ku coba, namun aku tak mampu membuang semua kisah yang telah berlalu di sudut relung.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.